Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium. Générique.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilization.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple, d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
C'est une nouvelle émission des Voix du Scénarium qui se présente ce soir après un petit hiatus qui nous a permis de ressourcer un petit peu et de recréer quelques épisodes. Vous avez pu découvrir la première partie de Metal Adventure la semaine dernière. On va enchaîner avec la deuxième partie ce soir. Et juste avant, je voulais vous faire part d'une interview de Guillaume Jantet qui sera divisée en plusieurs parties puisque Guillaume est un petit peu bavard. Et Guillaume Jantet a une particularité, c'est qu'il fait des jeux amateurs, mais souvent avec des concepts. Je vous laisse découvrir cette interview qui a été réalisée via Discord, donc la qualité peut un petit peu varier. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment tu as découvert le JDR ?
Bien sûr, du coup je m'appelle Guillaume Jantet, ce qui ne surprendra personne puisque tu viens de le dire. Dans la vie, je suis comédien. Je fais partie d'une compagnie de théâtre. Nous sommes quatre, une petite compagnie de théâtre qui travaille dans un quartier populaire de Villeurbanne à côté de Lyon depuis une vingtaine d'années, où notamment on crée beaucoup de projets avec les habitants. Comme on disait tout à l'heure en off, on en discutait un peu. Le but c'est d'exister comme structure culturelle dans un quartier où il n'y en a pas forcément d'autres, et puis de construire et de se nourrir de toute la vie qu'il y a dans ce quartier. Et à côté de ça, ce qui va peut-être plus nous intéresser ce soir, c'est que je suis amateur de jeux de rôle depuis trop longtemps pour dire des chiffres sans se faire du mal. Et le fait du coup d'aimer le jeu de rôle me conduit évidemment à jouer très régulièrement, à maîtriser des parties avec MJ ou à faciliter des parties sans MJ, à faire des après-midi de découverte en médiathèque, et puis à écrire des jeux et en illustrer d'autres. Voilà. Alors ma première rencontre avec le jeu de rôle a pas été une très très bonne rencontre. pour vrai dire. Je pense que j'avais 12 ans, je crois, un truc comme ça. J'habitais dans un petit village en Bourgogne. Et mon voisin Bruno s'était acheté l'œil noir. C'était un truc de folie, on ne connaissait pas du tout ce que ça pouvait être. Et tous les voisins, on était allés chez Bruno pour jouer à l'œil noir. On a créé nos personnages. Dans mon souvenir, ça a été interminable, la création des personnages. Et on a commencé à jouer. Ça a commencé, il a dit, vous êtes au-dessus d'un arbre gigantesque, machin. Faites un jet de dextérité ou d'agilité, je ne sais plus. J'ai fait un fumble, je suis tombé, je suis mort. Voilà. Et ils ont continué à jouer. Et moi, j'ai regardé, du coup, tous mes voisins continuaient à jouer. Et moi, je ne jouais plus parce que j'étais mort. Et j'ai trouvé ça chiant. Et je suis rentré chez moi. J'ai dit, c'est complètement con, ce jeu. Donc ça, c'était ma première rencontre avec le jeu de rôle.
Alors oui, effectivement, sans doute une expérience un petit peu douloureuse.
Ouais, mais puis c'était les années 80. C'était, voilà, je pense que personne d'entre nous savait exactement ce que c'était et ce qu'on allait faire avec. Et puis après, voilà, au lycée, on a eu un club entre midi et deux où on faisait du jeu de rôle aussi, où c'était... C'était sympa, notamment parce qu'on était entre potes, donc on jouait à des jeux de l'époque, quoi. Qui, quand on regarde aujourd'hui, c'est pas forcément les jeux ou les façons de jouer les plus intéressantes, mais voilà, ça commençait à mettre les pieds dedans. Et arrivé en fac, là, ça a commencé. J'ai eu un coup de cœur avec un pote qui faisait jouer à Pendragon, où le jeu me plaisait bien, les règles me plaisaient bien, on était vraiment dans quelque chose où on jouait les personnages, où il y avait toute une qui vraiment m'a séduit. Et on a créé un club jeu de rôle. Alors du coup, c'était pas exactement la fac, mais j'étais en école d'architecture à cette époque. Et à côté, il y avait une école d'ingénieurs et les élèves se mélangeaient. Et on jouait ensemble à pas mal de jeux. Et comme moi, j'étais à l'école d'archi et que je vais faire tout de suite la transition avec ta deuxième question. Comme moi, j'étais à l'école d'archi qui était en 6 ans d'études et que les ingénieurs étaient en 3 ans parce qu'ils avaient déjà fait prépa avant. Ça tournait un peu et assez vite, je suis devenu un peu l'ancien du club jeu de rôle. Et comme j'avais pas les thunes pour m'acheter des bouquins, j'ai commencé à écrire des jeux pour faire jouer les gens qui arrivaient au club jeu de rôle. Qui étaient les premiers étaient des sortes de hacks. Le premier jeu que j'ai écrit était un peu basé sur les règles de Pendragon, sauf qu'on y jouait des vampires à Lyon à notre époque. Et du coup, assez vite, les deux premiers jeux que j'ai écrits, qui étaient quand même des jeux très tradis, très années 90, sont devenus les deux jeux phares du club jeu de rôle de l'école d'archi et de l'école de TPE. Et de génération en génération d'étudiants. En plus, moi, je suis resté dans cet appart d'étudiants quand j'ai commencé à être comédien. C'est devenu, bon, même si on jouait d'autres choses, c'est devenu un peu les deux jeux du club jeu de rôle. En plus, on se posait pas du tout la question. Il y avait 3 jeux que j'avais écrits à peu près à cette époque. On se posait, en fait, pas du tout la question. Est-ce que je suis auteur de jeux de rôle, est-ce que j'écris des jeux. En fait, j'avais écrit ce jeu puis on y jouait. Et j'ai appris que après des copains du coup l'avaient retapé et puis qu'il y avait une version qui tournait et que après quand ils partaient au boulot, ils y jouaient dans leur club, dans leur ville. Enfin, il y a une sorte de petite histoire comme ça de ces jeux qui ont leur existence, qui ont bien tourné, qui quand on les regarde aujourd'hui sont évidemment bourré de défauts et de maladresses, mais en tout cas qu'on crée un peu aussi nos identités, nos envies de jeu en fait à cette époque.
Ce sont des jeux qui sont toujours joués actuellement ?
Non, c'est des jeux qui sont le jeu de vampire. Il y a même pas de version celui-là. Il y a même pas de version tapée sous Word. C'est écrit à la main sur des feuilles volantes. Il y a 2-3 copains qui doivent avoir des photocopies. Donc je pense que celui-là, il est absolument introuvable. Et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il est jouable, hein. Mais enfin pour le coup, moi je trouve qu'il est plutôt bien pour l'époque, même si mes envies de jeu de rôle ont beaucoup évolué depuis. Mais c'est vraiment un jeu artisanal, c'est-à-dire qu'il y a tout le lore, il était dans ma tête. Les règles sont écrites dans le désordre au fur et à mesure des idées qui venaient. Tu vois, je crois que la première page, c'est des règles pour chasser. Il n'y a même pas encore la création de personnages, elle est page 7. Enfin, c'était vraiment des notes pour moi le faire jouer, quoi. Puis après, bah, les potes, à force d'y jouer avec mes notes, ils pouvaient le faire jouer aussi. L'autre, qui était un jeu d'Heroic Fantasy, qui s'appelait Dragon Slayer, qui était ma réponse personnelle à Warhammer. Il y a pareil, je pense qu'il, voilà, il y a une version Word qui existe. Mais c'est, tu vois, c'est un jeu en pourcentage. Enfin, c'est des règles qui sont, je pense, qui sont vraiment dépassées par rapport au jeu de rôle d'aujourd'hui, mais qui ont juste de l'intérêt s'il y a des gens qui veulent faire de l'archéo-rôliste, quoi. Mais malgré tout, je les renie pas du tout, hein. C'était, le principe de Dragon Slayer, j'adorais Warhammer, mais il y a un truc qui m'avait toujours frustré, c'est ce changement de carrière. J'adorais le fait qu'on puisse jouer plein de carrières différentes, qu'on puisse jouer un marchand, qu'on puisse jouer, enfin, mais que quand tu avançais dans le jeu, quand tu prenais de l'XP, bah tu devais changer de carrière pour choper d'autres boosts et du coup, moi j'avais créé un jeu où il y avait autant de carrières, mais t'évoluais dans celle-là. C'est-à-dire que quand t'étais marchand, il y avait des niveaux et puis des évolutions de la classe de marchand qui du coup tu à la fin tu devenais maître de caravane, enfin tu devenais voilà, et du coup il y avait plein de classes, plein de d'écoles de magie, mais chacun voilà progressait dans sa classe et du coup c'était assez chouette de trouver aussi un univers où bah voilà, où un marchand peut être aussi important qu'un guerrier, suivant la classe de magie que tu fais, bah il y a pas forcément de sort d'attaque parce que tous les magiciens sont pas forcément des blatreurs. Enfin voilà, c'était un jeu qui marchait bien. Ouais, on s'amusait bien avec en tout cas. Et ça, c'était les années, effectivement, 90.
Est-ce que tu sais combien tu as de créations de jeux publiés à ce jour ?
Alors, c'est ça, c'est que publiés, je sais pas, j'ai jamais compté. Sur Itch.io, alors attends, là, il y en a 5, 6, 7, je sais pas, une quinzaine, on va dire, qui sont sur Itch.io. Donc, Itch.io, c'est une plateforme où on peut télécharger les jeux en PDF. Alors ça paraît impressionnant, mais il y en a beaucoup qui sont des jeux d'une page. Enfin, c'est pas que des jeux de 350 pages. D'ailleurs, mon jeu le plus long dans ceux qui sont publiés doit être Sonia et Conan contre les ninjas, qui fait une vingtaine de pages. Et puis après, bah il y a tous ceux qui le sont pas, qui sont soit des jeux qui datent de cette époque-là, ou des jeux qui sont que j'ai créé pour jouer. Il y en a un, par exemple, Robusta Robots, qui est pas du tout publié, mais qui est sur Roll20. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour y jouer sur Roll20 avec des copains. Mais pour l'instant, j'ai pas. C'est un jeu pour faire de la SF comme dans les films des années 50. Mais du coup, je l'ai pas publié, notamment parce que ça repose beaucoup sur les illustrations. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mettre dans cette ambiance de SF vintage. Et toutes ces illustrations, c'est que des images que j'ai pris de films, que j'ai pris de vieux films, que j'ai pris de vieux illustrateurs, de couvertures de pulp des années 50. Et du coup, il est pas publiable tellement ça.
Effectivement, il y aurait un petit problème de droit.
Voilà, exactement. Et si un jour je veux publier ou le rendre disponible, il va y avoir un boulot d'illustration de malade à faire dessus. Ça viendra peut-être un jour, peut-être pas, je sais pas. Et comme souvent, une idée en entraîne une autre. Voilà, il y a quand même, en général, les jeux que j'ai pas édités au moment où je les ai créés, ils se font vite, ils sont vite dépassés par les nouvelles idées qui arrivent.
Est-ce qu'il y a des jeux dont tu es plus fier que d'autres ?
On m'a posé la question il y a pas longtemps. J'ai répondu à une réponse, j'ai botté en touche, en disant que ça me faisait un peu comme si on me demandait si je préférais mon fils ou ma fille. C'est-à-dire que je suis fier de chaque jeu. Alors fier, c'est pas le mot, ça fait un peu prétentieux, mais j'ai de la tendresse pour chacun des jeux que j'ai créés, parce que tous ils racontent une partie de moi. Alors il y a Sonia et Conan, il a un vrai succès pour un jeu indépendant. il a un vrai succès, et en termes de vente, téléchargement, et puis en termes de retour et de critique. Donc, évidemment, c'est peut-être celui qui m'a fait le connaître, mais tu vois, je peux pas, parce que c'est celui qui est le plus connu, et je peux pas le dire qu'il me rend plus fier que celui que j'ai créé avec mon fils, par exemple, qui est Milky Monster. C'est un jeu que j'ai créé pour jouer avec mon fils pour son anniversaire de ses 8 ans. C'est lui qui a fait les illustrations. Et du coup, d'avoir créé cet objet avec mon fils, ça me rend hyper fier aussi. Il y en a un que j'ai créé dans un atelier en médiathèque avec des jeux où on a un après-midi avec des jeunes, on a un après-midi avec des enfants, on a créé un jeu tous ensemble, et c'est eux qui ont fait les illustrations, il existe en médiathèque et tout ça. Il me remplit aussi d'une fierté énorme. Du coup, je pense que tous mes jeux, du plus petit d'une page, même pas, il y en a qui fait une carte postale à Sonia et Conan, qui a malgré tout un certain succès pour un jeu indépendant. Tous me rendent malgré tout. Enfin, j'en suis tous content. Ça répond pas à la question, hein, t'as vu. Hein.
En fait, ma question aurait peut-être dû être: lequel de tes jeux a eu le plus de succès?
Ouais, indubitablement. T'as vu comme je dis des chouettes mots. ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot-là. Ouais, il a eu beaucoup de succès, notamment grâce à des chaînes YouTube de jeux de rôle qui l'ont relayé, grâce à des potes, il y a pas mal de gens qui ont fait de la com autour, parce qu'en fait, moi je suis personne. C'est-à-dire que s'il y a pas quelqu'un à un moment qui parle de mes jeux, ils ont pas de vie, quoi. À part pour 2-3 potes. Donc j'ai eu la chance que il y a des gens, notamment pour faire un peu de name dropping, il y a Mathieu B de C'est pas du JDR, qui a un blog, et puis un Discord, a été un des premiers à en parler. En plus, c'est un ami, mais je pense qu'il en a pas parlé que pour ça. Ça a donné pas mal de visibilité au jeu. Et après, il y a plusieurs podcasts comme Geek Power ou Indécent Podcast, et puis JDR pour les nuls, qu'on ont vraiment parlé. Et ça a aidé vraiment le jeu à démarrer, puis ça lui a donné un gros boost. Du coup, le bouche à oreille l'a vraiment fait connaître. J'ose croire aussi que le jeu a une certaine qualité, ce qui fait que après, les gens qui ont été le voir l'ont aimé, et puis en ont parlé autour d'eux. Ce qui fait qu'en plus, ce jeu, du coup, après, a eu... on a fait une version anglaise qui a marché moins que la version française, mais c'est ce qui est normal, parce que je suis absolument pas du tout connu, mais qui a quand même son existence et qui marche un peu. Et grâce à un ami qui s'appelle Mathieu Léokma, qui maîtrise le japonais, on a fait une version japonaise qui a pas mal marché au Japon, qui a été super bien reçu. Du coup, ça a donné aussi un coup de boost à ce jeu qui existe effectivement en 3 langues. En PDF, il existe en 3 langues, et puis en version livre, il existe en français et en anglais. Et voilà, puis là, il y a eu un coup de boost. Là, comme il y a eu Octogone cette année qui a repris, j'ai pu présenter le jeu à Octogone, ça a relancé ça a bien, puisqu'il a quoi? Il a 2 ans maintenant, ce jeu. Et il y a des boutiques qui commencent à être intéressées. Du coup, il commence à exister aussi dans certaines boutiques. Donc ça fait qu'il marche tout seul, et c'est chouette. Chouette. Il y a eu pas mal de hacks aussi. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais il y a eu pas mal de hacks qui ont été faits parce qu'il est très très facile à hacker, ce jeu. Enfin, à s'approprier, puis en faire des extensions, on va dire, pour parler français. Notamment, il y a une extension qui a été écrite par mon fils à 10 ans, où on peut jouer Yoshi à la place de Conan. Enfin, à la place de jouer à Barbare, on peut jouer Yoshi, le copain de Mario. Et mon fils a maîtrisé une partie à Octogone, tout seul. C'était chouette. Il avait 11 ans, il maîtrisait pour 4 adultes. Là, tu vois, ça aussi, ça me rend fier. Peut-être plus que d'écrire des jeux, de voir mon fils s'emparer de ça.
C'est sans doute un des plus jeunes créateurs de jeux de rôle en France.
Oui, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est le plus jeune créateur à avoir sa fiche sur le GOG.
Sans transition, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de Conan et Sonia contre les ninjas ?
Ouais, alors, ça part... Ouais, ça part avant tout de mon amour pour tout ce qui est pulp, tout ce qui est nouvelle. J'adore les nouvelles où en 30 pages, t'as une sorte de roman épique, enfin une aventure épique où on se prend pas trop la tête à chercher à trouver enfin de la vraisemblance ou tout ce qui est de l'écriture pulp des années 30, 40, 50 où vraiment il peut y avoir dans la même histoire des chevaliers, des vaisseaux spatiaux, une pieuvre géante qui sort de la terre et du coup tout cet univers un peu nanar peut-être ou un peu vraiment d'aventure épique pulp. Voilà, j'avais vraiment envie de ça. Et j'avais envie d'un jeu où on est vraiment à la fois dans de l'action. C'est-à-dire que parfois, dans le jeu de rôle, on parle beaucoup. Et moi, le premier, parce que je suis quelqu'un de très bavard. Et je voulais un jeu où on soit vraiment dans l'action. On n'est pas forcément des scènes où les personnages passent 2 heures devant la porte à savoir qui va l'ouvrir et dans quel sens on tourne la poignée. Je voulais voilà, avoir un héros, un héros de film d'action qui, dès qu'il doit faire une scène d'action, il a la main sur la narration, il arrive à faire quasiment tout ce qu'il veut. Puis dès qu'il faut commencer à parler, ça devient plus compliqué. Et du coup, j'ai imaginé ce jeu où il va y avoir un joueur ou une joueuse qui sera un ou une barbare. Du coup, par référence, j'ai nommé Sonia et Conan parce que j'aime beaucoup ces personnages-là. Mais en fait, on va créer le barbare qu'on veut. Un barbare, c'est un personnage extrêmement puissant qui est pas très très loquace. Donc ça peut être un Hell's Angel de l'espace, ça peut être un barbare à la Conan, ça peut être un catcheur, ça peut être un troll, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, c'est un personnage hyper puissant qui parle pas beaucoup. Et en face de lui, les autres joueurs ou joueuses, entre 2 et 4, seront les ninjas qui seront à la fois, on va dire, les méchants de l'histoire. Ils vont devoir, d'ailleurs à la création de la partie, ils vont devoir poser quel est leur objectif maléfique. Et à la fois un peu un rôle de MJ, mais MJ où on va partager le cerveau en 4. C'est eux qui vont placer les scènes, c'est eux qui vont jouer les PNJ, c'est eux qui vont décrire ce qui se passe et qui vont plonger notre héros dans l'aventure. Donc si on voulait résumer, Sonia et Conan contre les ninjas, c'est un jeu pulp d'action, sans préparation, pour un joueur et 2 à 4 MJ. Et le but, c'est de faire une partie, encore une fois, sans préparation, d'une heure et demie, hyper pulp, où on va inventer une histoire un peu comme dans un nanar des années 80 ou une nouvelle des années 50.
Merci Guillaume Jantet pour cette première partie d'interview. J'espère que ça t'a plu d'échanger avec moi. J'espère aussi, chers auditeurs, que ça vous a plu. Parce qu'effectivement, c'est des jeux à découvrir sur sa page itch.io. C'est vraiment sympa. On se fait une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Juliette, Edouard, Kevin et Fahadi. Pour la suite de Metal Adventure, on avait laissé nos chers pirates sortir d'une cale et découvrir que le vaisseau dans lequel ils étaient prisonniers était abordé. Et là, vous débarquez dans une mêlée générale. Il y a des pirates de tous les côtés, il y a des tirs de blaster dans tous les sens, et il y a des coups de sabre un petit peu partout. Qu'est-ce que vous faites ?
J'essaie d'observer, enfin, je regarde tout droit à travers la bataille, j'essaie de voir est-ce qu'à l'autre bout, il y a une porte de l'autre
oui.
côté.
Oui, il y a une porte.
Ok.
Il y en a même une sur la droite.
Il y en a même une sur la droite. Ok. Dolores, je sais que c'est le bordel, tout ça, juste il y a une porte là. Et tout au fond, je pense que tout, au tout début, c'est la tête du vaisseau. Et Kyle, on peut peut-être y aller, nous, pour peut-être prendre le contrôle, si c'était le but. Alors, est-ce qu'on va traverser tout ça en vie ? Je sais pas.
On y va, on traverse, on vous couvre, et on amène Kyle au poste de pilotage.
Parce que si je pense que si on est justement sur un abordage de vaisseau, il faut forcément que j'arrive à décrocher leur vaisseau pour déjà reprendre l'avantage.
On peut peut-être aller voir ce qu'il y a dans la salle d'à côté avant d'aller tout devant.
On n'a pas le temps.
Pas le temps.
À moi.
Pas le temps.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de traverser en plein milieu, sachant qu'ils se battent.
Ils sont où les sbires ? Enfin, les autres.
Je leur ai dit d'aller de faire un tour et de chercher des armes.
Et de revenir.
Et de revenir après, oui. Donc ils vont venir et on va les prendre en sandwich.
On attend dans la salle.
Agile comme on est, enfin, bon, peut-être pas toi, mais agile comme on est, on peut passer, on ouvre le passage et ensuite on garde le cockpit pour que Kyle puisse faire son boulot. De toute façon, okay. On tape tout le monde, je veux dire. Il y a entre ceux qui nous ont. Alors, en priorité, ceux qui nous ont attaqués et qui nous ont capturés,
ouais.
Et les autres s'ils ont envie de nous faire la peau.
Moi, j'ai pas d'armes, je me bats pas. Moi, je vous indique à la limite s'il y a des gens qui viennent, puisque j'arrive à facilement voir ça. Mais
Ramon, tu peux taper sur tout le monde.
Oui.
Je me mets derrière toi, Ramon, alors.
Très bien.
Fais diversion.
Est-ce qu'on reconnaît un petit peu les deux camps ? On avait dit, je sais plus. Si on reconnaît un petit peu qui est l'attaquant, ouais. De quelle faction il est, etc.
Ouais, vous identifiez quand même deux camps. Souvent, c'est des manières de s'habiller. Il y en a qui sont un petit peu plus sur tel ou tel type de couleur. Il y a des signes représentatifs. Effectivement, souvent les pirates, ils arborent soit un petit drapeau, une pochette, un logo sur une salopette, un brassard. C'est des choses que vous retrouvez régulièrement. Mais là, il y en a tous. Sauf qu'ils sont juste, effectivement, il y en a qui sont vêtus d'une certaine couleur et d'autres plus d'une autre. Donc il y a visiblement deux factions. Par contre, laquelle est celle du navire, vous avez un petit peu de mal à le dire.
Avec mes connaissances de la Havane, est-ce que je suis capable de distinguer ces factions?
Tu peux faire un jet, ouais.
Du coup, je peux peut-être faire aussi un jet de connaissances Baris.
Et ça fait deux réussites.
Alors c'est Ramon qui voulait faire quelque chose ?
Ouais, en connaissance Barents peut-être. Sorte de voir un petit peu si.
Non, parce que ça va pas être des factions identifiables comme ça. Par contre, effectivement, t'as fait tes deux réussites. Tu penses qu'effectivement il y a l'équipage de Barbossa qui est là, ou une partie, puisque tu sais que Barbossa il a plutôt une flotte que juste un petit équipage. Et tu penses que il y a aussi l'équipage du. Amiral, capitaine, je ne savais jamais en fait comment l'appeler, parce qu'il aime bien changer de nom régulièrement, mais Strucker.
Et est-ce qu'on le connaît un peu, ce Strucker ?
Vous l'avez déjà rencontré, c'est quelqu'un qui est. Que, comment dire ? Qui est plutôt limite dans l'application du code des pirates. Ce qui fait qu'il est souvent relégué dans des décisions, parce que sa parole n'est pas forcément une parole très fiable. Et vous savez que c'est quelque chose qui, pour vous, est hyper important. Et que effectivement le code des pirates, bon, des fois ils s'en passent par-dessus l'épaule.
Ok. Les rouges en priorité, les gris après. Ramon, tu fais diversion. Nous, on emmène Kyle au poste de pilotage et on garde la porte.
Ok. Et ben.
Et Amra, s'il faut taper sur des gens, il faut taper sur des gens.
Mais j'ai rien pour taper.
Il faut que tu prennes sur toi.
Moi, je peux vous dire d'où vient l'ennemi pour.
Amra.
Ok, je tape.
Très bien.
Je tape.
Effectivement, traverser la pièce sans taper, ça risque d'être compliqué. Il y a beaucoup de monde, ça s'entrechoque. Les mouvements, il y a des moments où visiblement l'équipage de Strucker commence à avancer un peu plus, il se fait repousser légèrement. Il y a des gens qui commencent à tomber au sol. C'est un beau carnage.
Je pense qu'on a un brise-glace. Alors je propose que Ramon aille tout droit en jouant des épaules et que nous on passe dans la tranchée qu'il va faire.
Je vais avancer tout droit et en fait avec mes quatre bras, dès qu'il y en a un qui passe à côté, je lui fauche les jambes pour le faire tomber en fait chaque fois.
Ok. Tu me fais tes jets de mêlée du coup.
Petite souris.
Du coup, vu que j'utilise les 4 bras, j'ai un des plus, c'est ça?
Ouais.
Petite souris.
Attends, tu utilises ton. Non, c'est
un
bon.
Point de panache?
Non, non, parce que c'est le point de panache, c'est quand tu fais la mutation. Le, ouais.
C'est une mutation, j'ai pas besoin.
Ah, c'est réussi, t'as.
Allez, décris-moi ton action, comment tu fais, comment tu passes. T'arrives à bousculer les gens et à frayer un passage, ouais.
En gros, concrètement, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais courir et dès qu'il y en a un qui passe à côté, ma main va choper sa cheville et hop, lever. Hop, cheville levée. Hop, cheville levée. Hop, cheville levée. Et le faire tomber comme ça petit à petit. En fait, pour faire un passage.
Ok, t'arrives à bousculer en fait les gens qui arrivent. Il y en a que tu fais tomber, t'as des gens qui sont en train de se battre, puis tu glisses, qui s'empalent sur l'épée du gars d'en face, qui tombent sur le type d'en face. Effectivement, tu déséquilibres pas mal de gens, et au départ, les gens t'ont pas vu, mais t'as une petite stature, ce qui fait que tu pousses, et très vite, les regards commencent à se braquer sur toi, et il y a quelqu'un qui s'interpose face à toi.
Très bien, je te regarde, pousse-toi.
Eh ben, tu veux que je me pousse, mais falloir me pousser.
Je me pousse. Alors là, je suis rapide.
Si possible, j'arrive derrière en courant, vu qu'on suit. Je pose mon pied sur son épaule, je me projette, je tente une attaque, je me projette pour le pousser au sol, le gars d'en face.
Je lui ai dit de taper en même temps.
Tu veux pousser le gars qui s'est interposé entre eux deux?
Non, il veut se propulser sur lui.
Je m'appuie sur.
Pour me pousser moi?
Non, je m'appuie sur toi pour.
Tu es un marchepied.
Voilà,
d'accord. Oui, bah de toute façon, j'ai la taille d'un marchepied.
T'es un banc.
Donc là, on va être sur un jet d'acrobatie.
C'est ça.
Ok, je te laisse faire.
Ton dos
tu
va
veux
servir
utiliser
de
du Metal Factor en plus ou pas pour réussir ton action?
Tu peux
pas
prendre
besoin.
Du Metal.
Pas besoin.
T'es sûr de toi?
Je fais 3 réussites sur 3.
3 réussites. Oh. Donc en fait, t'avais que 3 en action.
Oui, c'est ça. Si j'ai pas la compétence, je reprends le truc d'en haut. Oui.
Et si c'est pas entre crochets, ouais.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Bah, t'as pas pris de Metal Factor. Non, okay. Ouais, je trouve que c'est un peu juste. Donc, t'arrives à prendre appui, t'arrives à sauter, et en fait, au moment où tu veux tomber, il s'écarte un petit peu, en fait, et tu lui retombes sur le pied, en fait. Donc, le mec avait le pied en avant, et il se retrouve avec un type qui est tombé de tout son poids sur son pied, et il a l'air furax, et il te met une beigne.
Je peux pas l'esquiver.
Ah, si. Bah non, t'es. Ok.
Quand il se prend la beigne, je veux juste lui tirer un coup de blaster dans l'épaule pour le blesser, qu'il soit déstabilisé et qu'on puisse passer.
Ok. Ouais, bon bah. Tu vas prendre un point de dommage quand même. Il va te faire une blessure. Mince, tu coches une case dans indemne. Okay. Et en fait, c'est ça le système de blessure, c'est que vous cochez les cases quand vous avez tout rempli. Vous passez à la case après.
Oui.
Sauf quand c'est des dégâts qui sont un peu plus forts, auquel cas on attaque direct.
Ok.
Bah fais ton tir de blaster du coup.
Ah, et du coup j'ai fait 2 réussites.
2 réussites. Ok. Donc tu viens de te prendre une grosse beigne, t'entends un tir de blaster qui siffle juste à ton oreille, et tu vois le mec d'en face qui s'effondre.
Bah les gars, ça passe, hein. On y va? On y va peut-être? On y va? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Cours!
Je t'ai pas attendu, moi j'ai avancé.
Ok.
Moi je suis et je couvre l'arrière de l'équipe.
Ok.
J'ai mon épée de sortie, j'ai mon sable de sortie et si je peux mettre une petite beigne comme ça à droite à gauche.
Ok, tu mets des petits coups.
Ouais, voilà, un petit tendon en moins d'un mec de barbossage, j'hésite pas à le faire quand même, voilà. Après, mais mon but c'est de rester avec l'équipe et puis de protéger leurs arrières pour qu'on puisse aller jusqu'à la porte.
Ok. Vous taillez, vous avancez, vous progresser en fait à travers ce fatras de personnes et d'entrechoquements de lames, de tirs de blaster, et vous arrivez face à une porte.
J'enfonce.
Vas-y, je t'en prie.
Je suis dans l'action en fait, je fais pas gaffe. Je tape, je continue de taper. Voilà.
Ok. Et ben, tu fais.
Alors, non.
Pas mêlée, là il faudrait faire effectivement démolition, mais c'est entre crochets.
Bah, je vais taper gratuitement. Hein.
Et ben tu fais mêlée, ouais, je vois pas.
Audace.
J'ai pas utilisé mes. Là pour le coup, j'ai pas utilisé mes 4 bras. Un seul bras suffira.
C'est une jolie porte en fait qui a l'air de coucher sur le côté avec un petit pad sur le côté.
Il me saoule. Allez, ouf. Une seconde. 1, 2, 3.
3 réussites. Ok, t'arrives avec l'élan.
4 réussites.
Avec l'élan, tu frappes en fait contre la porte. Et tu te rends compte que normalement, effectivement, elle devait coulisser. Que maintenant, elle coulissera beaucoup moins bien, puisqu'elle elle est complètement déboîtée. T'as ouvert un petit peu, mais ça, c'est pas suffisant pour la pousser en fait.
Ok, bah super. Du coup, je m'écrase.
Bah, Ramon.
Aïe, alors.
Ça se voit.
Regarde, Ramon, on a dit tu tapes les gens. Pas bah, les portes.
C'était une personne.
Tu préfères. Tu, bah, maintenant, moi, je pense pas que. Alors, est-ce que. J'observe la porte, est-ce que je vois si le mécanisme de coulissement est toujours intact ou alors si je tente, ça va bloquer dans tous les cas.
T'as de fortes chances en fait qu'elle s'ouvre, mais pas complètement du coup.
Ok, d'accord.
Par contre, quand tu regardes la porte, tu te rends compte qu'il y a du monde derrière et qui sont en rang en fait pour attendre et choper la première personne qui traverse.
Ah! Ramon, bien joué ton coup. Dolores, il y a plein de personnes derrière la porte. Kyle, on va t'emmener devant.
Plein, ils sont 5 peut-être.
Ils sont 5 environ. Bon, ça se fait 5.
On se
l'est
fait.
Oui, on se l'est fait. On se l'est fait. Comment on fait? J'ouvre la porte et quelqu'un. Vous passez devant? Peut-être tu tires directement, Kyle.
Alors j'avais plutôt pensé que Ramon, qui apparemment a l'air d'être en forme, fonce dans le tas et la personne qui reste debout, je tire dessus.
Dolores. Il ressemble à quoi les personnes qu'on voit dans le cockpit du coup?
Ça a l'air d'être des pirates, plutôt des membres d'équipage.
Ok, ok.
Ils sont plutôt au blaster. Alors on va dire qu'il y en a la moitié au blaster et la moitié au sabre.
Très bien. Eh ben.
Je regarde derrière nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent vers nous ou ils sont toujours en discussion solennelle?
Non, vous faites partie maintenant des personnes qui font partie des personnes qui se battent.
Okay.
Donc vous êtes inclus dans cette masse de combat, donc ils s'approchent vers vous. Par contre, vous remarquez, au moment où tu te retournes pour voir un peu comment ça se comporte, que les prisonniers qui étaient avec vous arrivent du fond du couloir.
Dolores, les gens qui sont partis pour nous là, ils sont de l'autre côté là.
Prise en sandwich comme j'avais prévu.
Bravo. Comment ils font pour nous rejoindre? Ils nous rejoignent pas?
Je vais les chercher.
Ils vont faire diversion pendant que nous on prend le cockpit.
Donc on va pas les chercher.
Est-ce que j'ai toujours du coup mon ami?
Oui,
de l'OCG?
Ah ouais, il est toujours derrière toi. Il a l'air de se planquer. Il a l'air de rester, ouais, effectivement, légèrement en retrait. Il te suit comme ton ombre, mais il se comporte comme ton ombre.
D'accord, mais je garde quand même un œil sur lui parce que c'est franchement suspect.
Il a récupéré un sabre qui traînait, mais il le garde le long de lui sans vraiment. T'as pas vraiment l'impression qu'il a l'intention de s'en servir.
Ouais, d'accord.
J'essaye du coup de hacker le pad avec le mien.
Okay.
Je connecte pour ouvrir la porte.
Système de sécurité, du coup?
Ouais.
C'est ça, système de sécurité. Et 5 réussites sur 6. 6, 4, 4, 4, 4.
Ok, alors t'imagines que tu as réussi très très bien ton jet. La porte se serait ouverte bien correctement si elle n'était pas défoncée. Là, elle se bloque à moitié. Elle commence à se refermer. Elle te recolle un coup et en fait, elle a l'air de se verrouiller en position semi-ouverte. Il y a la place pour passer qu'une seule personne à chaque fois.
Ok.
Ok.
Je me mets sur le côté, bien entendu, à couvert.
Oui, elle est ouverte.
Oui, elle est ouverte.
Tu les arroses,
Kyle,
toi.
J'attends s'il y a une personne qui est de l'autre côté qui sort, je le fume avec mon blaster.
Tu peux pas juste leur tirer dessus depuis ici? Genre, et Kyle.
Non, parce qu'il y a un risque réciproque que je me fasse tirer en même temps, alors que si je reste sur le côté en biais, ils sortent et je les fume.
Je parle à Dolores en. On peut parler à part, Dolores?
Très vite. On n'a pas le temps,
très vite,
là.
Très vite, très vite.
Oui, quoi?
Est-ce qu'on prendrait pas le gars qui est avec Kyle? Oui. On le jette dedans, oui. Et ensuite nous on tire.
Oui.
Enfin, vous.
On fait diversion.
Oui, voilà, il fait diversion.
Il fait diversion.
Ok, on fait ça. Bon, bah, cool.
Je n'ai absolument rien entendu.
On n'a rien entendu.
Allez, tu rentres, on te couvre et on te suit.
Lisberry.
Quoi?
Lise machin, là, truc.
Lise machin.
Oui.
Lisberry.
Mais pourquoi? Enfin.
Bah parce qu'il faut bien que quelqu'un rentre et là ça urge.
Mais.
Je l'assomme.
Ok.
Je mets une baigne pour la sauver.
Mets-lui un coup alors.
Coup de mêlée.
Ok.
6 réussites sur 8.
Il est mort.
Non, non, tu m'as dit que tu l'assommais.
Oui.
Donc, je pars du principe que tu contrôles en fait la force que tu vas mettre dedans. Tu sais que tu es un petit peu plus bourrin que la moyenne et tu as appris en fait à tenir compte de ça. Donc, tu lui mets une grosse tarte. Mais tu sais, la tarte à la Terencil, tu sais, avec le plat de la main.
Bam! Là, ça lui laissait une marque pour le coup.
Et le type en fait s'effondre sur lui-même.
Voilà.
Il n'y a plus qu'à.
Et bah,
désolé, Kyle. On sait que tu l'aimais bien.
Je le prends et je le jette dans la pièce. Enfin, je l'insère dans la pièce. Parce que...
Ok.
Après, j'ai pas suivi votre plan. Vous
ça
démerdez.
Va, ça va aller vite.
Tu te prends un tir de blaster. Au passage, ça fuse. T'as mis ta tête en fait juste dans l'encadrement. Le temps de le lancer, tu t'es pris un tir parce qu'ils étaient vraiment devant.
Dans quel
et
bras.
Au moment où le type arrive sur le sol. Pas de bruit, rien, pas de tir. Ça fait bizarre.
Ça doit se recharger, les blasters comme ça ou c'est...
Non, c'est du... Alors, il y a un nombre de coups limité avant chauffe, en fait.
Ouais.
Mais normalement, ça se recharge pas.
Eh ben, écoute, je regarde vite fait s'il y a des couverts à l'intérieur, si je peux rentrer et me rouler pour me mettre à couvert, genre derrière une console ou un truc comme ça.
Tu fais roulade couvert à l'intérieur,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'est ça, pour pouvoir rentrer sans rester à découvert au milieu du couloir.
Ouais, c'est faisable. Il y a des pupitres en fait de navigation qui sont... c'est assez bizarre en fait comme environnement, je me rends compte que je ne l'ai pas vraiment décrit, mais vous avez beaucoup de métal partout, mm-hmm. Mais par exemple le mobilier ça va être des mobiliers en bois, ça va être des... Mm-hmm. C'est vraiment un truc...
C'est un mix un peu steampunk
c'est ça.
Dans l'idée. Ouais, ok. Et ben, je vais faire ça.
Ok.
Acrobatie?
Acrobatie.
Je vais prendre un peu de Metal Factor.
Quand même. Vas-y, tu
je
prends combien?
4D de Metal Factor parce que je pense que j'en ai besoin.
Ok. Ok, j'ai oublié de dire ok.
Je lance, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 réussites du coup.
Et t'avais pris 4D?
Ben, j'avais 9D en tout, grâce aux 4D en plus.
Et ben ça Metal passe. Factor. Je te laisse décrire ta situation. T'imagines que tu vas passer sous le feu des blasters,
ouais,
mais
voilà.
Que tu prends pas de coups.
Eh bien, je repère un endroit où je veux atterrir. Et je vois qu'il y a une sorte de petit bureau en bois sur un côté, peut-être pour le poste des senseurs ou quoi que ce soit. Et je plonge en avant et je fais une roulade et je me plaque derrière. J'entends des tirs de blaster et ça fume un peu, le bois autour de moi fume. Mais du coup, je suis arrivé intact de l'autre côté. J'ai mon sabre toujours à la main. J'ai réussi à ne pas me blesser avec en faisant une roulade. Et franchement, par le passé, on peut dire que je n'ai pas toujours été aussi chanceuse. Et du coup, j'en profite pour dire... Kyle, couvre-moi et on passe à l'attaque.
C'est parti, Captain.
Tu remarques une chose, c'est qu'en fait, t'es rentré dedans, t'avais trois personnes. Effectivement, ils sont six à l'intérieur.
Ouais.
T'en as trois qui sont concentrés sur toi et t'en as deux qui, en fait, ont commencé à tirer l'iceberg sur le côté.
Très bien. Il faut... Ça urge, Kyle.
Je rentre dans la pièce.
Ok.
Qu'est-ce en que tirant des coups de blaster.
Ok.
Voilà.
Tu me fais tes jets d'armes. Il tire de l'autre côté. Hein.
Les lumières, elles sont électriques ou sont des bougies?
Non, c'est des lumières électriques.
Ah, ok.
les vaisseaux fonctionnent avec un système de batterie au radix qui alimente en énergie électrique en fait les vaisseaux.
Ok.
Tu peux avoir des bougies, hein, rien n'empêche, mais globalement, c'est plutôt des lumières électriques.
Ok.
Et du coup, je fais 5 réussites sur 5.
5 réussites. Ok, je te laisse décrire. Tu rentres dedans, t'arrives à en abattre 2.
D'accord, donc j'arrive, j'étais déjà prêt, bien posé. Je respire, je me concentre. J'en croise un premier, j'essaye de lui tirer dessus. J'en croise un deuxième, j'essaye de lui tirer dessus. J'essaye de aussi me mettre à couvert, parce que je sais que ça va arriver aussi au bout d'un moment. Et j'essaye de me mettre à une distance à couvert, mais assez proche du capitaine pour entendre ce qu'elle va me dire.
Ok.
Voilà.
Donc, t'arrives à te positionner pas très très loin. C'était une table en fait qui était suffisamment large pour que vous puissiez vous cacher derrière à deux.
Mm-hmm.
Donc, vous l'avez couché un petit peu pour faire façon bouclier. Et là, vous êtes côte à côte.
D'accord.
Ramon.
Eh bien, est-ce que j'ai vu le corps de l'iceberg se faire décaler ou pas?
Bon, oui, tu vois le corps de l'iceberg en fait se faire décaler. Il y a des deux gars qui sont en train de s'affairer à le. Tu sais pas vraiment ce qu'ils essaient de faire. Okay. Ils le décalent sur le côté.
D'accord. Bah du coup je leur fonce dessus.
Ok.
Je rentre dans la pièce en mode bœuf et je leur rentre dans le
lit. T'es tout seul, Amora.
Amora, tu feras quoi?
Moi, je re... mince, je rehack le pad pour éteindre les lumières du cockpit.
Ok. On s'occupe de l'action de Ramon et on revient sur Amora juste après. Ramon, tu vas me faire un jet d'acrobatie.
J'ai pas de point en acrobatie. Ça
tu peux prendre du Metal Factor.
Allez, on va en prendre 4 aussi. Histoire de. Ça en fait donc que 4. Ah non, faut que j'ajoute l'agilité, ça
l'agilité. Oui, tu ajoutes ton agilité quand même.
Ça fait 8, ça va. Allez, let's go. Et on part sur un. Eh bien. 5 réussites.
5 réussites. Je te laisse te décrire mon action. Enfin, me décrire ton action, pardon.
Ils sont combien en face de moi ?
Oui. Il reste 4 personnes en face de toi, dont une qui a l'air d'être occupée en fait à faire de la navigation.
D'accord.
Il y en a 2 qui sont concentrés vers vous et 2 qui s'occupent de l'iceberg.
Alors, moi, je fonçais sur les personnes qui étaient en train de récupérer l'iceberg.
Ok. C'est-à-dire que tu fonces sur les 2 seules personnes qui ne peuvent pas te tirer dessus. Non, mais qu'on soit d'accord. C'est
oui, c'est totalement ça. On est d'accord.
Ok.
Donc, je vais utiliser l'iceberg après, mais je ne vous en dis pas plus. Du coup, je vais foncer dessus. Avec 2 bras, je chope leurs 2 coups.
Ok.
Et avec mes 2 autres bras, je leur tape le bide.
Donc, vous faire une attaque de mêlée.
C'est ça.
Vas-y.
Let's go. Du coup, j'ai mes 4 bras, donc 8, ça fait 9, 7. Et on est parti. Et je vais même utiliser un point de panache.
Et ben go alors.
C'est parti. Un petit point de panache parce que ça va être une belle action. Et alors, 9. Et on relance. Et ça me fait.
Je te mets 2 dés en plus pour le point de panache.
2 dés en plus ?
Ouais.
Ah bah ça m'en fait 11. Attention, 1, 2, non, 4, 5, 6, 7, 7
pas mal.
7 réussites.
7 sur 11.
Eh bien, je te laisse décrire avec plus de précision.
Super.
Sachant que dans l'action, tu te prends un tir de blaster dans une de tes mains.
D'accord.
Il faut que tu l'inclues dans ton élément de
très bien.
Narration.
Ça marche. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais choper avec 2 bras les 2 coups des 2 personnes. Donc, je vais les soulever pour le dégager de l'iceberg. Avec mes 2 autres points, je vais juste tabasser les 2 bides des gars, vraiment pour les assommer. Sauf qu'à un moment donné, je vais prendre un. Un tir de blaster, merci. Dans la main qui tenait le coup d'une personne. Et c'est pas grave dans tous les cas, parce qu'au moment où il va tomber, en fait, la pointe qui était censée partir dans son bide, va partir dans sa tête.
Ok. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Et tu as deux mecs qui sont complètement séchés devant toi. Les 2 autres sont derrière et ils continuent à essayer de te tirer. Est-ce que tu te planques ?
Alors non, je vais prendre l'iceberg et je vais le mettre devant moi.
Ok, tu prends l'iceberg pour t'en servir de bouclier.
Exactement.
Ok. Au moment où tu fais ça, en fait, tu te rends compte qu'il ne tire plus.
Ouh.
Amora.
Moi, je n'ai rien suivi de la scène. Hein. Je me suis planqué pour pas regarder. Enfin, je suis sur le côté en train de checker surtout les gens qui arrivent vers moi. C'est l'histoire de ma vie. Donc, j'hack le pad une nouvelle fois pour essayer d'éteindre les lumières du cockpit. Et ça me fait 3 réussites sur 6. 6, 5 et 4.
Ok, super. Alors, tu n'éteins que le pont ou tu éteins plus largement ?
Que le pont.
Ok. Les lumières s'éteignent. Il y a quelques petits voyants en fait qui restent quand même allumés.
Ooh.
Et ça fait très bizarre. Vous entendez les tirs de blaster qui commencent à s'arrêter. Il y a encore quelques entrechoquements de lames parce qu'effectivement il reste quand même un petit peu de luminosité, mais la partie de pilotage n'est plus du tout allumée.
Du coup je rentre ma tête dans le cockpit, dans le fameux couloir. Dolores, là. Je sais pas quel est votre plan, mais c'est le moment où jamais là. Vous pouvez peut-être, on peut aller tout okay. Devant là maintenant.
Du coup, je dis Kyle avec moi et je bondis de derrière ma table. J'analyse rapidement la situation. Il y en reste 2, dont un qui vient de tirer visiblement sur Ramon. Donc je sors sabre clair et je vais pour le trancher avec, je pense.
Okay.
Parce qu'il y en a un qui est encore debout avec son sabre et l'autre qui est à la navigation, si j'ai bien compris.
Il y en a 2 en fait qui sont encore debout.
Encore debout,
un au blaster, un au sabre et un qui est à la navigation qui vous fait.
Eh ben, je vais choper celui qui est au sabre. pour okay. l'empêcher de venir attaquer Ramon qui a déjà fait bien plus que sa part de boulot. Et je compte sur Kyle pour être efficace comme d'habitude et gérer la personne qui est au blaster. Donc je vais aller engager un duel de sabre avec celui qui est à l'épée.
Ok. Donc je te laisse faire ton attaque de mêlée.
Attaque de mêlée. Oh, et puis hop. Ça fait 5 réussites sur 7 dés.
Eh ben, bien classe. Je te laisse gérer la passe d'armes. Dis-moi comment ça se passe.
Eh ben, les sabres s'entrechoquent pendant quelques secondes, mais ma prouesse martiale finit par prendre le dessus. Et alors qu'il esquive un des coups, je lui donne un coup de boule qui le déséquilibre et je lui enfonce mon sabre dans le cœur.
Ok. Il s'effondre.
Voilà.
Tu sens le poids de son corps.
Voilà, mon sabre sort comme ça, plein de sang. Et je dévisage le dernier en me disant Kyle, c'est le moment.
voyant l'action de mon capitaine, je ne peux que intervenir. Et du coup, je sors et je m'en vais pour utiliser ce moment de distraction pour lui tirer immédiatement dans le cœur et l'achever.
Ok, effectivement, il a vu son camarade tomber. Il a eu un moment d'hésitation. Toi, t'as pas hésité un seul instant. Tu t'as sorti ton arme, alors t'as visé le cœur, la tête, ce que tu veux. Et tu as tiré. Son corps s'effondre.
Yes.
Sur ce bruit, tu as un petit mouvement, en fait. Tu vois quelques petits. Quelques petites loupiottes, en fait, qui se rallument, en fait. Parce qu'il y a une personne qui était devant qui s'est dégagée, qui fait non, non, épargne-moi.
Moi, après avoir éteint les lumières et du coup juste avant ce chantier, je suis entré en marchant dans la salle pour me diriger calmement vers le poste de commande.
Ok. Le poste de commande où tu as un type qui est adossé au poste de commande et qui tremble de toutes ses mains, qui met ses mains sur sa tête et qui fait je me rends, épargnez-moi.
Ah mais y a pas de souci, c'est pas de moi dont tu dois avoir peur. Je regarde derrière moi, t'as vu, c'est eux. Moi, écarte-toi, juste pousse-toi.
Amra, oui, tu fais ton boulot, d'accord. Je vais le chercher. Donc je vais chercher le mec qui s'est rendu et je le mets à genoux au sol et je le ligote avec la corde qu'on avait gardée de tout à l'heure. Et je dis, maintenant tu nous sors de ce merdier et nous, il va falloir qu'on gère la situation avec les autres derrière.
Dolores, je vous sors de la situation. Qu'est-ce qu'on fait avec Kyle? On prend le vaisseau, on s'en va ou on fait tomber tout le monde? On fait retourner le vaisseau?
Alors je souhaiterais, capitaine, si vous êtes d'accord, voir dans quel état est le vaisseau dans un premier temps, voir si on est accroché à un autre vaisseau, mm-hmm. et ensuite vous donner les informations, savoir si on doit se décrocher et partir ou rester et les exterminer.
Fais une analyse du vaisseau. Et toi, pendant ce temps-là, Amora, est-ce que t'as moyen de me faire passer un message sur tout le vaisseau, que tout le monde entende?
Oui, est-ce que c'est équipé de système de haut-parleurs?
Oui, il y a du ouais. haut-parleur.
Ouais. Okay. Bah, oui, totalement possible.
Il y a même le haut débit.
On va commencer par Kyle, du coup.
Ouais.
Donc, tu commences à recalibrer un peu les senseurs, à faire un check-up du vaisseau, tu rétablis les lumières, tu commences à regarder la carte, et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a presque plus de petits points verts. Il y a beaucoup de points gris qui sont juste derrière. Ouais, il doit rester deux points verts en fait sur la zone de combat. Et effectivement, vous vous rendez compte juste d'une chose, c'est que il y a plus de bruit en fait derrière. Et au moment où vous vous retournez, vous entendez. Merci à vous. Par contre, vous allez poser vos armes au sol gentiment. Et en fait, vous avez une dizaine de personnes, blaster au poing, sabre dans l'autre main. Et puis vous avez un mec avec des espèces d'épaulettes à franges, avec une casquette, avec une petite visière courte, qui fait « Bon, c'est nous les capitaines de ce navire maintenant. »
Ils sont dans le cockpit ou juste avant d'entrer à l'extérieur?
En fait, t'as le mec avec sa casquette qui vient de rentrer et il est suivi de près en fait par plusieurs personnes. Ils sont en train de rentrer
Ouais. Du coup,
ferme la porte.
Non. Pendant qu'il rentre, je me saisis du je sais pas comment on appelle ça, du volant quoi, du machin pour conduire.
Volant.
On appelle ça les commandes.
Voilà, je me saisis des commandes, merci. Et je vais juste tirer dessus d'un côté pour que le vaisseau tourne.
Ok.
Face à un 3-6.
Est-ce qu'il y a
J'utilise navigation.
Fini, ah, oui. Dolores.
Non, je me demandais si, d'un point de vue esthétique, il y avait une grande barre comme dans un vaisseau et tout. Ah ouais.
Ok, d'accord.
Ah ouais.
Du coup, je la prends et je la tire d'un coup sec. Navigation.
Je suis pas sûr que t'as besoin de navigation pour faire de conneries comme ça.
Normalement, non. Mais je vais laisser faire son jet.
C'est de la connerie maîtrisée, monsieur.
6 sur 9.
Désolé. 6 sur 9
Ouais.
Ok. Tu prends la barre et tu commences à vouloir lui donner un grand coup. Et tu sens qu'elle résiste, en fait.
Ah, je... Ah
ah c'est peut-être parce qu'on est à raisonner.
Ah oui, oui, sûrement. Mais bon, ok. Ah, des gens qui rentrent, cool.
T'as le mec en uniforme avec ses petites épaulettes qui fait... Vous pensez vraiment qu'on est des bleus?
Je suis loin de lui ou pas? Parce que vu que t'es pas trop loin de la porte.
T'es pas très loin de lui.
Cool, je vais m'avancer devant lui.
T'es qui toi?
Avec toujours... Lisberg. Il est à vous lui?
Ah ouais, on est venu pour lui. Hé, hey, Lisberg. Et là tu vois le mec qui se penche, qui le prend sous l'épaule, qui lui met une grosse tarte dans la tronche. Lisberg, qui commence à se réveiller. T'as vu? On est venu te sauver. Là, il lui met un grand coup dans le bide. Et Lisberg, il a fait « Coucou, bonne nuit
ah ». Ben, ça tombe bien, on l'a sauvé pareil, nous.
Bon, je vais aller essayer de dédramatiser un peu la situation parce que je sens qu'on n'est pas de taille face à la force qui vient de rentrer dans le cockpit, clairement. Du coup, je m'approche. Je jauge un peu le capitaine. Et je dis « On vous prend pas pour des amateurs, mais... Moi, je ne sais pas encore qui vous êtes. Alors, si vous vous présentez, on pourra peut-être discuter de la suite de la situation.
On pourra discuter qu'après avoir pris une décision. Vous vous rendez?
Je regarde mon équipage.
C'est toi qui décides pour tout le monde. Si tu...
Oui, je sais, mais je les regarde quand même, parce que je ne suis pas, stupide.
Ils sont combien actuellement et armés comment? De première vue.
De ce que tu vois, ils sont une dizaine. Plus le mec en uniforme. Vous voyez que derrière, il y a les prisonniers qui étaient avec vous qui sont en train de se faire ligoter.
Ok.
Est-ce qu'il n'y a que le capitaine qui est dans la même pièce que nous?
Non, non, les gens commencent. Au fur et à mesure que lui, il avance, il y a des gens qui viennent avec lui, en fait.
Je ne me rends pas sans savoir l'identité de celui qui me demande ma reddition.
Ah, imaginez que c'est l'amiral Strucker qui vous demande de vous rendre.
Hein. Je suis d'accord. Écoutez, respectez bien le code et oui, nous nous rendrons. On ne va pas se battre pour un morceau de métal qui n'est même pas à nous.
Allez, posez vos armes et vous serez mes invités, pas mes prisonniers.
Ben, je pose mon sabre à terre et je regarde les autres d'un air entendu en moi leur demandant de poser ce qu'ils ont en main.
Je lève mes mains, j'ai pas d'armes.
Je pose le blaster au sol. Je lève les quatre mains, j'ai pas d'armes.
Si, tu as toujours des armes sur toi. Bon.
Et donc ils vont vous inviter à passer dans leur vaisseau par le SAS. Et on va s'arrêter là pour cette partie-là. On va laisser nos voix du scénarium dans cette... on va laisser les voix de ce soir dans cette situation plutôt inconfortable. Bien ce qu'ils vont de situation inconfortable en situation inconfortable. J'espère que l'émission de ce soir vous a plu. Pas d'émission la semaine prochaine, puisque la radio se consacre aux Inouïs du printemps de Bourges et qui mobilise l'ensemble de la radio associative des Pays de la Loire. Et ce qui fait que les émissions du 25 ne sont pas programmées en dehors de cet événement. Et j'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénarium.